C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil.
Et Adjane Chélil, il en a gros sur la patate. Non, parce que ça va, Netflix, Spotify, tout le monde regarde nos messages privés. Et là, tout le monde regarde les messages privés que je m'envoie avec ma meuf, pas foutu de me faire une bonne recommandation de film ou une bonne recommandation de musique sur Spotify. Ça va à la fin, quoi. On vous laisse accès à tout comme ça, à nos vies, et jamais rien de bien, quoi.
Et t'aurais des choses à cacher, monsieur Chélil ?
C'est pour ça que vous êtes par le fameux cadavre dans la salle de réunion, tout va bien.
Tout va bien, ouais, ok. Va bien. Eh ben oui, les amis, bim, encore un scandale chez Facebook. Facebook. Non. Termine l'année et ben exactement comme il l'a commencé, puisque des révélations du New York Times qui datent du 18 décembre 2018 et ben viennent mettre à mal des mois et des mois d'excuses, de patte blanche de Mark Zuckerberg. Ils ont montré de la bonne volonté, et ben tout ça est remis et mis à néant puisque le New York Times arrive avec un dossier faramineux qui met encore Facebook dans les cordes, hein, on peut le dire.
Ouais, ça fait quand même un scandale de plus, et pas des moindres. Hein. Comme tu l'as rappelé, il y a eu différentes étapes pour Facebook qui ont quand même été assez compliquées. Période de crise un peu hein, quand même depuis 2 ans là. On sait que c'est en plus de ça une plateforme qui est un petit peu vieillissante, chez qui les jeunes sont de moins en moins actifs, même s'ils continuent d'y aller. Voilà, il y a quand même une petite odeur de crise chez Facebook et il y a pas mal aussi d'articles qui fleurissent, qui commencent à dire est-ce que ce serait pas 2019 une année charnière pour Facebook ?
Eh oui, parce qu'à force de prendre des coups droits, des crochets et des uppercuts, Facebook commence à avoir un peu le nez qui saigne. Concrètement, le 18 décembre, on va décrire avec vous hein, ce qui s'est passé, ce que le New York Times nous raconte. Mais en gros, le New York Times annonce que des documents internes montrent que le réseau social a donné à Microsoft, Amazon, Spotify et un paquet d'autres boîtes tech, comme ça de grosses boîtes tech, des accès beaucoup plus grands aux données des utilisateurs que ce qu'ils avaient révélé jusqu'à présent.
Et ce serait quand même une enquête très sérieuse. Hein. Effectivement, il y a eu des fichiers internes qu'on servit de source, mais il y a eu aussi une cinquantaine de témoignages d'anciens employés de ces grandes boîtes américaines et certains anciens employés de Apple aussi et de Facebook qui ont témoigné directement au New York Times.
Donc ouais, c'est du lourd.
C'est vraiment corroboré, c'est pas une enquête, ils ont voulu balancer pour balancer. Quoi.
C'est du lourd. Allez, on rappelle le contexte très sulfureux hein, de Facebook depuis 2016 et l'élection de Trump avec une série de scandales liés à la protection de la vie privée et notamment le fameux Cambridge Analytica. Rappelons ce qui s'était passé, hein, un cabinet de lobbying politique qui avait utilisé de matière, on peut le dire, inappropriée, les données Facebook pour créer des outils de ciblage utiles à la campagne de Trump. On connaît le résultat.
Ça a plutôt bien fonctionné pour eux.
En tout cas, ça y a contribué. Dans la foulée, Facebook fait son mea culpa, promet de faire mieux. On a tous vu les images de Mark Zuckerberg devant les sénateurs américains, dire « Mais non, mais écoutez, nous on fait de notre mieux, tout ça est très compliqué, vous n'y comprenez pas grand-chose, etc. » Et en avril, Zuckerberg déclare « Les gens contrôlent totalement tout ce qu'ils partagent sur Facebook, en tout cas, ils en ont la possibilité. » Sauf que voilà...
Mytho.
Sauf que voilà, rebelote. Effectivement, dossier très complet du New York Times du 18 décembre. Comme tu l'as dit, ils ont interrogé plus de 60 personnes, dont des anciens employés de Facebook, des partenaires de chez Netflix, de chez Spotify, des anciens fonctionnaires et des défenseurs de la vie privée. En gros, c'est un énorme dossier. Ils ont examiné aussi 270 pages de documents internes de Facebook.
Il y a eu un peu de boulot, ouais.
Voilà, ils ont effectué des tests, des analyses techniques afin de contrôler leurs informations. Résultat des courses, il semblerait qu'il y ait un gros problème.
Alors, grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous vous connectez avec Facebook à une application tierce telle que justement Netflix, Spotify ou n'importe quelle autre application qui vous permet de vous connecter grâce à vos identifiants et mots de passe de Facebook. Donc, c'est ce qu'on appelle une application tierce. Et cette application tierce... et notamment pour certaines, vont avoir accès à beaucoup plus de données que ce que vous avez accepté de leur donner dans tous vos paramètres de confidentialité, etc. Et par exemple, donc c'est ça le qui a fait un peu le buzz et qui est un peu la tête de proue de toute cette affaire, c'est que des boîtes comme Netflix, Spotify ou la Banque Royale du Canada, eh bien, ils ont pu accéder aux messages privés. Et ça, c'est quand même assez choquant puisque c'est la première fois qu'on a comme ça des informations sur des marques qui peuvent accéder directement à nos messages privés.
Et oui, c'est le fameux hein, Facebook Connect, hein, c'est bien pratique pour les utilisateurs, tout le monde à peu près à Facebook, et ça permet de ne pas avoir à recréer un compte sur Netflix ou sur Spotify, juste je lis les deux applications, puis je me connecte à Spotify avec Facebook Connect, sauf qu'effectivement, il semblerait que on n'ait pas forcément donné nos accords pour tout, en tout cas que les choses soient relativement floues de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe du côté de Netflix et de Spotify, ben là clairement ils jouent les saintes nitouches. Hein. Eux ils disent bah non, nous on est ah bon,
il sait rien pas quoi.
Ah bon, on n'est pas au courant. En gros ils ont déclaré.
Nous
hein,
non,
ils
fais
ont,
pas ça.
Ils ont vraiment déclaré en communiqué de presse, on n'était pas au courant de tous les pouvoirs que Facebook nous avait octroyés et on l'a exclusivement utilisé pour permettre aux clients de recommander des émissions de télévision et des films à leurs amis. Mais vraiment, au-delà de ces recommandations là, nous on n'a jamais accédé aux messages perso. Oui. D'Adjan Chelil.
C'est vrai qu'ils ont prononcé mon nom, ces bâtards. Non, mais ils sont quand même forts parce qu'ils ont dit on les a utilisés seulement pour suggérer des films, mais sinon on l'a jamais utilisé. Donc c'est qu'au final, au fond, quand on lit derrière la ligne, ils l'ont utilisé pour faire leur taf, donc suggérer les bons films ou les bonnes musiques en fonction de ce que vous vous racontez dans vos messages privés.
Et oui.
C'est plus simple quand tu dis à ton pote j'ai absolument envie de voir Rocky 3 que le soir même sur Netflix il te propose Rocky 3. C'est plus facile pour eux.
Effectivement. Et puis alors, côté Facebook, alors là, c'est étonnant. Facebook a effectivement s'est exprimé depuis le 18 décembre, hein, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec une réponse où on ne reconnaît pas le ton de Facebook des derniers mois, qui était assez mea culpa, vraiment on est désolé, on fera mieux la prochaine fois, etc. Non. Là, la réponse est plutôt agacée de Facebook. Je vous donne même le titre de l'article, hein, de leur communiqué de presse, c'est « Mettons les choses au clair ». Donc ça, c'est une tonalité auquel Facebook ne nous a pas habitués.
Non.
Et ils disent, en substance, c'est un long... On vous mettra le lien hein, pour que vous alliez vous faire une idée de la tonalité, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est « Pour être clair, aucun de ces partenariats ou de ces fonctionnalités n'a donné aux entreprises l'accès à des informations sans la permission des personnes. » En gros, ce que Facebook dit, c'est vous aviez qu'à lire les petites lignes, bande de gros malins, parce que on n'a jamais rien planqué. Quand vous avez donné l'accès, vous avez donné l'accès à Messenger, puisque c'est ça dont il s'agit. Et voilà, donc arrêtez de nous courir sur le haricot. Et après, ce que les boîtes en font, les partenaires de Facebook en font, ils se sont, eux, engagés à ne pas les utiliser de façon individualisée et exclusivement les utiliser pour améliorer les fonctionnalités et comment marche Netflix en lien avec Facebook, comment marche Spotify, etc. Et surtout, on ne les a pas vendus. Et ça, c'est quand même le truc très important. C'est non, on n'a rien vendu.
On les a donnés.
Juste fait ça pour faciliter la vie de nos utilisateurs. En gros, Facebook, pour changer, hein, parce que d'habitude, ils ont changé. Là, c'est facile, non seulement ils nient, mais en plus, ils disent ça va suffire maintenant.
Ça va peut-être nous casser les pieds.
Voilà, exactement.
Mais moi, ce que je trouve intéressant dans la communication de Facebook, c'est qu'il y a aussi un peu une communication, un peu un double discours. Moi, j'avais une réaction de Constantinos Papamiltiadis. C'est exactement. On l'appelle Pape dans le métier. C'est le directeur de la plateforme et des programmes destinés aux développeurs sur Facebook. Et lui, il a dit un peu dans le même ton que ce que tu viens de dire, aucun de ses partenaires aux fonctionnalités n'a permis à des entreprises d'accéder à des informations sans la permission des utilisateurs ou n'a violé notre accord de 2012 avec la FTC, Commission fédérale du commerce. Accord qu'ils avaient passé donc avec la Commission fédérale du commerce. Et pourtant, dans le même temps, on a un homme d'affaires américain, Roger McNamee, qui est investisseur, un bon investisseur de la première heure dans l'entreprise de Mark Zuckerberg.
Bon vieux Roger.
Voilà. Il y a toujours un Roger dans une comité d'administration. Et lui, il dit, tant que Facebook n'aura pas changé de son modèle économique, on ne pourra pas leur faire confiance.
Oui, bah alors là, c'est toute la question de la confiance, effectivement, parce que en vrai, si on est un tout petit peu lucide, évidemment que Adjane Chely nominativement n'a pas été écouté, Thibaut Tourier de la Broue non plus. Par contre, bah c'est vrai que toute la question, c'est de savoir est-ce que mes data personnelles, pour moi, la question déontologique, c'est la suivante, est-ce que mes infos perso et notamment mes conversations servent de monnaie d'échange et est-ce que des gens s'enrichissent sur mon dos avec ça? Alors, Facebook s'en défend en disant nous, on ne l'a pas vendu, parce que si on revient un peu aux fondamentaux, Facebook a toujours dit que nous, on ne vendra jamais les données personnelles de ses utilisateurs. C'était la grande crainte il y a quelques années de ça sur Facebook. Et en l'occurrence, il semblerait qu'effectivement, il n'y a jamais eu de transaction financière à proprement parler.
Avec Cambridge Analytics, on sait quand même, c'est un peu flou cette partie-là. Ils ont plus ou moins vendu les informations personnelles de leurs utilisateurs.
Bah, en fait, alors Cambridge Analytica, c'est un petit peu spécial. Il semblerait qu'il y a eu des failles, hein, surtout dans les sécurisations de Facebook. Mais là, ce que Facebook se défend d'un truc, c'est de dire nous, on a un service. Effectivement, vous nous confiez beaucoup de responsabilités puisque vous nous confiez un certain nombre d'infos personnelles. Mais ce qu'on veut, nous, hein, c'est Facebook, c'est on veut pas faire le mal, on veut faire le bien autour de nous, on veut changer le monde et on veut vous faciliter la vie. Et donc, on vous donne des outils qui nous permettent de nous pluguer sur Netflix, sur Spotify, etc. et de faire en sorte que Facebook reste central dans votre quotidien, qu'il y ait une vraie utilité de marque autour de notre produit. Et donc, à partir de là, on fait du win-win avec ses partenaires. En leur donnant des facilités à accéder à de nouveaux utilisateurs, c'est ceux de Facebook, et en même temps, la possibilité de faire en sorte que vos produits soient visibles. Mais il n'y a pas d'échange, en tout cas c'est ce que dit Facebook, il n'y a pas d'échange d'argent.
Alors, il n'y aurait pas d'échange d'argent, mais d'après Libération, ces informations, elles auraient été partagées, même si donc dans les paramètres d'utilisateur, on avait précisé qu'on ne voulait pas partager nos informations personnelles et en donner accès à d'autres entreprises tierces. Mais ça aurait permis à Facebook, cette récolte de donner toutes ces infos-là à ces applications tierces, de récolter des infos externes, donc de la part de ces applications tierces qui, en échange, ont donné aussi à Facebook des informations qu'elles possédaient, des informations personnelles qu'elles possédaient sur ses utilisateurs, pour mettre en place sur Facebook la fonctionnalité suggestion d'amis.
Oui, alors en fait, c'est là où on en revient à la logique de win-win. Alors peut-être que c'est un win-win-lose. Et nous, on serait dans la partie lose, hein, parce qu'on n'a pas demandé tout ça.
Ça, c'est gratuit, c'est toi le produit.
Voilà, ça, c'est sûr. Mais on le sait, hein, les données personnelles, c'est un peu l'encens du 21e siècle ou le sucre du 21e siècle. Il y a quelques années de ça, il y a quelques siècles de ça, on se battait, on faisait des guerres pour choper de l'encens. Mais aujourd'hui, on fait de la guerre pour choper de la data perso. C'est une ressource qui vaut des milliards, hein, selon l'Interactive Advertising Bureau. Rien qu'aux États-Unis, hein, juste les entreprises américaines vont dépenser cette année en 2018, ont dépensé 20 milliards de dollars pour acquérir et traiter des données de consommation. Et le nerf de la guerre, c'est pas non seulement de posséder la data, mais c'est de savoir l'analyser derrière et savoir en tirer des. Ah oui. Donc forcément, Facebook est assis sur une mine d'or. Et lui, eux, ce qu'ils disent, c'est nous, on les vend pas. Par contre, ce qu'on comprend, ce qu'on est en train de comprendre un peu à nos dépens, c'est que finalement, ils utilisent ça comme un leverage, comme un outil de levier et de négociation avec d'autres grosses boîtes tech et disant, nous, on a ça. Si on vous le met à disposition, qu'est-ce que vous faites pour nous et comment vous faites en sorte de pousser Facebook, faire en sorte que Facebook reste le réseau social numéro un?
Et ils se contentent de mettre une partie à disposition, une partie des infos qu'ils possèdent à disposition de ces applications tierces. Hein. On voit par exemple Binge de Microsoft qui, eux, avaient accès à la liste à vos listes d'amis. Donc, ils pouvaient voir qui était ami avec qui et ça leur permettait de le reproduire ensuite sur Microsoft. Donc, on voit que Facebook, effectivement, c'est du business. C'est une manière de commercer avec avec les autres grands groupes de les autres grands groupes tech qui existent, et c'est parce que dedans il y a aussi Microsoft, il y a Apple,
ils sont quasiment tous, même des groupes médias. On parle du The Times, on parle effectivement d'une banque anglaise,
banque canadienne,
donc
Spotify,
c'est sûr que
Apple, Amazon,
on parle systématiquement d'accords individuels, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des accords de partenariat.
Exactement.
L'article de New York Times est assez intéressant là-dessus parce qu'ils expliquent que ces accords-là sont vraiment dans le sein des seins de Facebook. Facebook. En gros, ça se passe entre Zuckerberg, ses proches collaborateurs et des partenaires, mais c'est pas, ça descend pas les niveaux de l'échelle. Et après, c'est du cas par cas. En gros, il y a Netflix qui vient sonner dans la belle villa de Mark et qui lui dit. On peut pas faire un truc entre nous. Comment on pourrait s'arranger?
T'étais là quand ça s'est passé. Non,
voilà. Non. Et à ce moment-là, quelque part dans un back office chez Facebook, il y a quelqu'un qui coche des cases et qui dit tiens, je te donne le droit d'accéder à ça, 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 ça. Sauf que ce que montre très bien l'article, eh ben c'est qu'en fait, il y avait des deals de partenariat qui avaient été faits sur des périodes qui devaient être provisoires. Et c'est notamment par exemple le cas du journal The Times. Et finalement, ils ont jamais enlevé ces droits et The Times a pu bénéficier pendant 4 ans. D'accès à des datas auxquelles ils n'auraient jamais dû avoir et qui à la base initialement étaient prévues pour être provisoires. Donc bref, c'est un micmac sans nom avec au cœur de ce bazar les données de milliards d'utilisateurs. Alors forcément, c'est un peu flippant tout ça.
Ouais ouais, on se dit la grande question comme le dit l'investisseur Roger, est-ce qu'on peut encore avoir confiance en Facebook? Facebook, on sait quand on s'inscrit dessus le système économique de Facebook, comment il fonctionne, c'est justement grâce à ses données personnelles et au fait qu'il ait eu autant d'utilisateurs sur sa plateforme. Il faut juste se dire qu'à partir du moment où quelque chose est sur Internet, c'est quand même plus ou moins, il y a des risques que ce soit public. Donc il faut faire attention à ce qu'on y met.
Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on sent, hein, bah là ça a été tout 2018 et puis ça termine avec cette note là, c'est qu'on sent que Facebook est vraiment dans la tourmente. Ça n'empêche pas d'être le réseau numéro 1, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est sous le feu des projecteurs, mais en tout cas on voit que ça crée un climat de défiance vis-à-vis de la plateforme, d'une du côté utilisateur, comme tu l'as dit, je pense vraiment qu'il y a un flip et les jeunes générations entendent tout ça et se disent oh là là, moi j'ai pas envie d'aller mettre là-dessus, je vais me mettre ailleurs, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Insta, je vais aller sur Snapchat, puisqu'on n'entend jamais parler d'eux. Et puis, côté marque, ça commence aussi à être problématique parce que est-ce que j'ai envie que ma marque et mes campagnes de marque soient associées à une société qui commence à être un peu dans le scandale et on voit un certain nombre d'annonceurs se poser beaucoup de questions. On peut même le dire, hein, même nous, à notre échelle, on voit des annonceurs objectivement se poser des questions quant à leurs investissements Facebook en disant ouais, mais avec tout ce qu'on entend, est-ce que Facebook n'est pas en train de se casser la binette?
Alors déjà, il y a tout ce qu'on entend, effectivement. Il y a ce que tu as dit, le fait que les plus jeunes, Facebook, ce n'est pas forcément le premier réseau où ils ont envie d'être et où ils ont envie d'être actifs. Et ils vont d'ailleurs choisir peut-être des réseaux plus comme Snapchat avec des messages éphémères ou WhatsApp avec des messages carrément cryptés auxquels ils ont plus confiance. Et ce qui impose aussi que... Ou alors même Twitter, où on sait que de toute façon, c'est public. Et puis voilà, donc tout ce qu'on pose sur comme tweet, on sait que n'importe qui peut les lire et au moins le contrat est clair dès le début. Ce qui pousse effectivement certaines marques à se poser la question de pourquoi on ne se déplacerait pas directement sur ces réseaux-là où les plus jeunes ont l'air d'aller et qu'on quittait un petit peu Facebook. Alors, comme tu l'as dit, pour le moment, je pense que c'est encore nécessaire d'être sur Facebook étant donné la quantité de personnes qui utilisent le réseau Facebook. Et donc, tout le monde quasiment est sur Facebook. Mais moi, j'ai un exemple déjà, un contre-exemple qui peut étonner. Mais pas tant que ça, c'est Ousmane Dembélé, le joueur de foot qui est en équipe de France et qui joue FC Barcelone. Et ce joueur n'a pas de page Facebook, il est présent sur Twitter et Instagram. Et d'ailleurs, sa bio sur Twitter, c'est des croix rouges avec écrit Facebook, croix rouge, Facebook, croix rouge.
Non, mais ils sont nombreux, hein, de plus en plus, à en faire aussi un statement, c'est-à-dire dire non, moi, je ne veux pas aller là-bas parce que ça, c'est le mal incarné. Moi, tout ça, quand même, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire en coin, comme tu peux le voir depuis tout à l'heure. Parce que oui, alors oui, on peut jouer les vierges effarouchées, crier au scandale et dire Facebook, en fait, ce sont des salauds. Mais remettons un peu les choses dans leur contexte. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un ces derniers temps râler sur Google et dire « ouais, Google ». Parce que finalement, ce qui est en train de se passer côté Facebook, mais tout le monde est tout à fait d'accord de le faire ailleurs et notamment sur Google. C'est impressionnant ce que Google détient comme information et qui, là, ne se cache pas de les utiliser. Quand vous utilisez Gmail, vous avez de la publicité dedans et c'est de la publicité qui est liée aux messages, aux emails que vous envoyez, ce qui est quand même ahurissant. Donc, ça veut dire qu'il y a des annonceurs qui ont accès à vos contenus, au contenu que vous écrivez. Et quand tu parles de recommandations cinéma, bah, si je suis Netflix, je peux tout à fait faire en sorte que quand dans un email je vois tel sujet, faire en sorte qu'il y ait une publicité qui s'affiche. Google, aujourd'hui, vous avez exactement la même chose que Facebook Connect, mais dans Google, vous avez des mêmes logiques de recommandation d'amis, vous avez tout ce dont on est en train d'accuser Facebook, Google fait exactement la même chose.
J'ai l'impression que ça fait moins polémique pour Google, parce que dans l'imaginaire collectif, Google, c'est avant tout un moteur de recherche. Et
ça fait bien longtemps que c'est plus le cas.
Oui, mais sauf que
c'est plus exclusivement
ça. Ouais. Mais en tout cas, dans la tête de tout le monde, c'est d'abord un moteur de recherche. Alors que Facebook, dans la tête de tout le monde, c'est d'abord un réseau social sur lequel on poste des photos personnelles, des messages personnels.
Ça fait bien longtemps que c'est plus
personnels.
Ça non plus.
Oui, mais c'est toujours le problème. C'est l'image qu'en ont la plupart des gens avec la réalité de ce qu'est aujourd'hui Facebook ou de ce qu'est Google. Et si Google, ça crée beaucoup moins de polémiques, c'est parce que Google, on a l'impression que c'est un moteur de recherche sur lequel, de toute façon, on met rien de très personnel dessus. Alors que Facebook, on a l'impression de créer des choses ultra perso, qu'on n'a pas du tout envie que quelqu'un, qui que ce soit, ait accès à ça. Et qu'il y a vraiment un contrat de confiance, entre guillemets, entre les utilisateurs et la plateforme, mais ce contrat de confiance, il a été mis en place tout seul par les utilisateurs, parce que Facebook fait signer des choses au début
que personne ne lit
comme à chaque fois qu'on installe quelque chose ou qu'on s'inscrit sur quelque chose.
Voilà, donc en gros, hein, c'est le cataclysme côté Facebook, l'année finie sur les chapeaux de roue, en tout cas comme elle avait commencé, avec une tonalité vraiment de défiance, de crainte. On se regarde un peu en biais et on va suivre ça de très près pour 2019. Je pense que ça va être un énorme enjeu sur Facebook de regagner des points de confiance, hein, clairement. Quoi.
C'est sûr, ça va être un des objectifs de l'année prochaine. Je crois qu'on a fait le tour de la question.
On a fait le tour. Venez nous parler de tout ça. Pourquoi pas sur Facebook si vous y êtes encore. @supernatif avec un S.
On est aussi sur Instagram, sur Twitter, même sur LinkedIn. Vous pouvez bien sûr suivre ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify. Laissez-nous des messages, on les lit, mettez des notes. Et puis si le sujet de toute façon vous intéresse, on peut encore en discuter par message. Nous, on se passe tous se retrouver demain avec un dernier épisode avant les fêtes et les vacances. Mais attention, on aura une petite surprise pour vous au milieu des vacances. On vous en dit pas plus, on vous laissera rester à l'affût de ce podcast.
Voilà, allez, très belle journée à vous tous.
Allez,
salut,
ciao à tout le monde.
À demain.